enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dans le royaume de Dieu aussi, et dans notre recherche de la personne, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit, il faut refuser de faire semblant. Nous voulons être vrais. Nous voulons être authentiques. L'apôtre Paul avertissait dans les temps de la fin d'un peuple qui fait semblant, d'un peuple qui a une apparence de piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Nous voulons déclarer ce matin que le christianisme, c'est pas une série de choses extérieures en apparence, que le christianisme, c'est une recherche de la personne, la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Dites-le encore dans votre cœur, je refuse de faire semblant, je refuse d'être dessus, comme dans Corinthiens 10, 26, 1 Corinthiens. Et l'apôtre Paul dit, si je combats, ce n'est pas comme donnant des coups dans l'air. Que je ne veux pas vivre ma vie spirituelle en parlant de combat et en donnant des coups dans l'air alors que je fais jamais rien de véritable à l'adversaire. Nous voulons une vie spirituelle où nous embrassons ce qui en fait la force, où nous recherchons ce qui en fait la force et où dans nos vies, par la grâce de Dieu, nous comprenons que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, par la vertu de Dieu, par sa force toute puissance, afin d'abattre des forteresses. En tant qu'Église, nous ne sommes pas intéressés, je crois qu'une des pires condamnations qui a pu être donnée à des serviteurs de Dieu, dans Ézéchiel 44, à des serviteurs qui avaient réduit la marche avec Dieu et le service pour Dieu à une religion, à des rituels, alors que leur cœur était loin, alors qu'ils avaient de la méchanceté dans leur cœur, alors qu'ils étaient rebelles contre Dieu, et ils étaient là à faire tous les gestes du sanctuaire, à faire tout l'extérieur et la routine du sanctuaire. Dieu leur donne la condamnation de Dieu s'abat, et elle est terrifiante pour moi. Je ne peux pas, après toutes les années, lire ce verset sans trembler dans mon esprit et dire, Seigneur, par ta grâce, que ça ne nous arrive jamais. Dans Ézéchiel 44, lorsqu'il dit, vous demeurerez dans mon service dans le sanctuaire, mais vous ne toucherez aucune de mes choses saintes. Quelle horreur que d'être là, de faire chanter les chants, faire les messages, faire les rituels, organiser les départements, mais ne jamais toucher à ce qui est réellement surnaturel. Il y a un danger à une religion sans révélation, à des positions ecclésiastiques sans puissance de l'esprit. Il y a tout un corps qui est présent, tout un corps qui est présent dans la province de Québec et à travers le monde, un corps chrétien, des milliers et centaines de milliers de croyants, et malheureusement, milliers d'églises qui sont là. Ils sont là, ils donnent des coups, mais ils battent l'air. Ils ont une apparence de piété, mais renient ce qui en fait la force. Ils sont dans le sanctuaire, mais ils ne touchent pas aux choses saintes. Ils ne touchent pas aux choses surnaturelles. Il n'y a pas d'impact et d'âme sauvée. Gare, malheur, avertissement, plaie terrifiante sur quelques mouvements d'église qui a en position de leadership des hommes ou des femmes qui battent l'air, mais qui donnent jamais de vrais coups. Des hommes et des femmes qui ont une position ecclésiastique, mais qui n'ont pas une puissance de l'esprit. Il n'y a pas d'âme sauvée, de vie changée. N'ont pas de témoignage, n'ont pas d'historique, n'ont pas de fruits. Ils ont juste l'apparence. J'espère que vous êtes avec moi, mais je dis, mon Dieu, je ne veux pas juger qui que ce soit d'autre. Mais en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas faire semblant. Nous voulons vivre dans la personne, la plénitude et la puissance de l'esprit. Quelqu'un devrait dire un vrai amen et applaudir. Dire avec moi, cette recherche de l'esprit, tellement vitale dans la pensée et le plan de Christ pour ses disciples, il se trouvait avec eux, acte 1, 4 et 5, et leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, Jean baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, acte 1, 8. Une puissance que Saint-Esprit qui va survenir sur vous. Et alors, vous allez pouvoir être mes témoins. À Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez recevoir le mot puissance, un dunamis, une énergie, une capacité, une dynamique de mouvement, une force qui nous rend capables, une puissance miraculeuse par mon Saint-Esprit. À chaque jour, à chaque année, chaque moment de nos vies, de dire où j'en suis ce matin dans ma vie chrétienne, j'ai besoin de cette puissance pour pardonner, pour aimer, pour aller de l'avant, pour être sanctifié, pour refuser le péché, pour donner, pour le louer. Combien savent que j'ai besoin de sa puissance? Simplement pour le louer et pour l'adorer, pour faire taire ma chair et lui offrir la louange qu'il mérite et qu'il a besoin et qu'il désire et qu'il recherche. Une puissance de son Saint-Esprit pour parler de lui. Puissance de son Saint-Esprit pour le communiquer, pour le vivre. Puissance pour être des maris, être des femmes, être des époux, être des papas, des mamans. Puissance en tant qu'Église, afin de voir le royaume de Dieu avancer et afin de nous tenir à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Jérusalem est le lieu de la défaite, le lieu où ils avaient subi leur pire défaite. Et Dieu dit, dans ton lieu de pire défaite, la sphère de ta vie où tu as connu la pire défaite, il y a une puissance dans ton Jérusalem pour te donner la victoire. Dans le lieu de la défaite, la Samarie, le lieu de la découverte, et les extrémités de la terre, le lieu de la destinée, la personne, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Premièrement, comme nous avons vu la semaine dernière, afin de poursuivre les œuvres de Christ. Et ce matin, afin, et pour ceux qui se joignent à nous, le message en entier est disponible sur CD. Et il est aussi, toutes les notes que vous voyez apparaître à l'écran sont disponibles pour vous aussi. C'est le troisième message ce matin. La semaine dernière, nous avons vu la personne, puissance et plénitude du Saint-Esprit, afin de poursuivre les œuvres de Christ. Et ce matin, deuxièmement, afin que chaque personne puisse expérimenter une Pentecôte personnelle et progressive. Nous avons vu la semaine dernière, les flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux, une Pentecôte personnelle, mais aussi une Pentecôte qui est progressive, une expérience avec le Saint-Esprit qui va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Il est contraire, il est opposé, inimité, il est absolument aux antipodes de la nature de Dieu. Que l'expérience que vous avez eue avec le Saint-Esprit que vous avez soit quelque chose qui était plus grand dans le passé qu'aujourd'hui, ou quelque chose de statique, ou qui a pris place un événement, une date ou une période de votre vie. La nature et l'essence même de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous marchions d'année en année à une recherche de l'Esprit, mais d'année en année dans une découverte, un approfondissement, un enracinement, une découverte, un élargissement de notre expérience avec le Saint-Esprit de Dieu. Une Pentecôte, une puissance qui est personnelle et progressive. En acte 2, nous avons lu ce texte la semaine dernière également. Et c'est le jour de la Pentecôte arriva et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Retenez bien l'expression, acte 2, c'est la naissance de l'Église. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et pourtant, dans acte 4, nous lisons acte 4, 31. Et lorsque vous voyez entre acte 2 et acte 4 ce qui prend place, c'est ce qui prend place dans nos vies à nous. Il y a de l'opposition, il y a de la fatigue, il y a des déceptions, il y a de la persécution, il y a un choc, il y a un contraste, il y a un combat entre ce qui est en eux et ce qui est à l'extérieur, entre ce qui brûle dans leur cœur et la méchanceté qui les entoure. Et alors qu'ils sont confrontés à tout cela, alors qu'une menace pèse sur eux, dans acte 4, ils commenceront leur prière en disant, « Seigneur, vois leur menace. Il y a une interdiction sur nous. Il y a une opposition sur nous. Il y a une menace sur nous. » Et acte 2, ils furent remplis. Et acte 4, une Pentecôte progressive. Acte 2, être rempli, n'était pas un événement seulement de « j'étais rempli une fois, voilà la date, et maintenant je suis assis dessus jusqu'à la fin de ma vie chrétienne. » Acte 2, ils furent remplis, et acte 4, ils furent remplis à nouveau. Et quel espoir, quel battement de cœur en nous de savoir que quel que soit le nombre de fois où il m'a touché et rempli, il a encore une mesure encore plus grande pour moi aujourd'hui. Acte 2, ils furent remplis. Acte 4, ils furent remplis. Une Pentecôte progressive. Et on voit plusieurs exemples de ça à travers toutes les actes des apôtres. J'en donne deux ce matin. Acte 8, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Acte 8, versets 12, 14 à 17, qui apparaît à l'écran. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Philippe est un évangéliste, il proclame Christ. Les multitudes s'avancent. Ils confessent leur foi en Christ. Les disciples discernent leur conversion. Ils ne les auraient pas baptisés au nom de Jésus. Ça ne veut pas discerner leur conversion. Et alors qu'ils les baptisent au nom de Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, j'ai juste un pas de théologie avec vous, À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un vient à Christ, la parole de Dieu nous dit que c'est par le Saint-Esprit qu'il est venu à Christ. C'est par le Saint-Esprit qu'il a été convaincu de péché, de justice, de jugement. C'est par le Saint-Esprit qu'il a été amené à une conviction. Il est né de l'Esprit. Combien savent que lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, je suis né de l'Esprit. Je deviens le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi, pour vous dire amen. Ils sont nés de l'Esprit, conduits par l'Esprit, convaincus par l'Esprit. Ils ont la résidence du Saint-Esprit. Ils commencent à faire leur premier pas et à marcher selon l'Esprit. Mais quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Et ceux-ci, descendus chez eux, et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint. Ils sont nés de l'Esprit. Le temple du Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés au nom de Jésus. Le Saint-Esprit réside en eux, mais il y a une dimension encore plus grande. Il y a une dimension nouvelle, autre, plus de l'Esprit. Le Saint-Esprit, et ils ont prié sur des croyants nés de nouveau et baptisés afin qu'ils reçoivent l'Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez qu'il y a des théologiens qui passent depuis des centaines d'années, à écrire des volumes sur les expressions « descendus ». Comment, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu alors que déjà il était en eux, etc., etc. Je crois que souvent toutes ces discussions-là sont nous, avec nous les enfants, avec des termes, avec nos petits termes à nous, essayant de mettre des étiquettes sur l'immensité d'un Dieu qui est insondable et immesurable. J'aimerais vous dire qu'une pensée profonde qui est importante, par exemple, à saisir pour chaque personne, c'est qu'alors que tu es né de l'Esprit et que tu es né de nouveau et que tu es le temple du Saint-Esprit et que tu es baptisé d'eau, tu n'as pas épuisé tes expériences avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut descendre sur toi, te remplir, te baptiser et te remplir de toute la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi. Vous devriez dire amen. Ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Dites à quelqu'un près de vous, le Saint-Esprit a toujours plus pour toi. Dites ça à la personne près de vous. Il a des dons spirituels. Il a un langage spirituel. Il a un baptême du Saint-Esprit. Il a un parler en d'autres langues. Il a des dons de l'Esprit. Il a des paroles de connaissance. Il a des dons de guérison. Il a des guérisons. Il a un feu dans ton cœur que tu n'as pas connu jusqu'à maintenant. Il a un zèle que tu n'as pas connu. Il a un rétablissement de certaines choses que tu ne t'as même pas aperçu qui est en train de mourir en toi. Quelle horreur! Quelle victoire de l'ennemi de réduire l'expérience avec le Saint-Esprit à quelque chose qui est arrivé une fois. Je dis cela à des frères qui sont et sœurs, qui sont d'arrière-plan évangélique, et je dis ça à des frères et des sœurs qui sont pentecôtisants, qui parlent en d'autres langues et qui ont pourtant réduit le Saint-Esprit alors que Dieu veut faire infiniment plus à l'intérieur de toi. Alors le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il fut rempli. Ils reçurent le Saint-Esprit. Alors la question qui brûle dans le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous ce matin, c'est est-ce que je vis quelque chose de nouveau et de frais et de grand avec le Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que je progresse dans ma relation avec lui? Est-ce que je peux vraiment m'asseoir et dire en 2006 ce que le Saint-Esprit fait en moi est encore plus grand qu'en 2005 ou en 95? Est-ce que je bloque d'une façon ou d'une autre l'œuvre de l'Esprit? Est-ce que je résiste à une œuvre plus grande de l'Esprit? Est-ce que je m'enorgueillis de ce que j'ai jusqu'à maintenant? Est-ce que par paresse spirituelle, je me contente d'infiniment de moins? Est-ce que je suis assez content ou assez résigné à mon état actuel de sanctification, de transformation, de sagesse, de purification, de transformation à l'image de Jésus-Christ? Est-ce qu'à ce moment, j'ai été berné à penser que je peux m'arrêter ici alors que l'objectif de Dieu est de me transformer jusqu'à ce que je sois une représentation de l'image de Jésus-Christ? Combien croient que nous sommes chacun appelés à être transformés à l'image de Jésus-Christ? Dites amen. Dites à la personne près de vous, je te connais, il y a encore de l'ouvrage à faire. Dites ça à la personne près de vous. Deuxième exemple dans les actes, acte 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, prédicateur puissant Apollos est à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rend à Éphèse. Il rencontre quelques disciples et leur dit, c'est ce que l'apôtre Paul demanderait à chaque personne ici dans ce lieu ce matin, c'est ce que Dieu demande à chaque personne ici. Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il y a des centaines de milliers de Québécois et de francophones qui vont entendre ce message par le truchement de l'Internet ou par l'émission de radio qui sont dans le même état, qui n'ont pas été enseignés sur le Saint-Esprit, n'ont pas été nourris de l'enseignement biblique sur la plénitude du Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux défier des gens qui sont pentecôtistes depuis 50 ans et des gens qui arrivent au Seigneur cette semaine et des gens qui sont de milieu évangélique. Je veux vous défier dans ces prochaines semaines à vous arrêter et à dire, Seigneur, par ta grâce, je veux être comme les Béréens. Je veux scruter à nouveau de manière fraîche toutes les Écritures pour voir si ce qui est enseigné est de Dieu. Mais je ne veux pas non plus réduire la personne du Saint-Esprit à un débat théologique. Je ne veux pas monter mes boucliers. Je ne veux pas mettre les mains sur les oreilles et faire la, 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 la. Je ne veux pas l'entendre parce que c'est différent de ce que j'ai connu. Je veux dire, Seigneur, par ta grâce, conduis-moi, enseigne-moi. Je ne veux rien manquer, rien perdre, rien éteindre de la grâce, de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Êtes-vous prêt à vraiment le prier? Applaudissez si vous êtes prêt à le prier avec moi, vraiment. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils étaient venus à la repentance, ils étaient venus à la foi en Christ, parce que Jean baptisait, mais dès son baptême, il annonçait, il disait, voici, baptême de la repentance. Et le message de Jean était, voici, moi je vous baptise d'eau. Pendant qu'il les mettait dans l'eau, moi je vous baptise d'eau, mais c'est pas la fin. Il y en a un qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Baptême d'eau, sur ces paroles. Alors, ils ont été baptisés au nom de Jean. Et Paul, et il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Jean ne se proclamait pas lui-même, ne se prêchait pas lui-même, il prêchait Jésus-Christ. Mais sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser, et tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Les dons spirituels qui leur sont communiqués. Vous êtes nouveau, vous arrivez ici à l'Église en 2006, il y a 500 millions de personnes sur la planète Terre qui vivent la même expérience, qui ont été remplies des dons spirituels, qui parlent un langage qui n'aurait avait pas été appris en français. Un langage, et dans les prochaines semaines, on va regarder également à pourquoi se parler en d'autres langues. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça donne dans ma communion avec Dieu, dans les choses, dans ma propre vie, dans ma vie de prière, dans ma louange, dans mon témoignage, dans mon zèle, dans ma vision? Qu'est-ce que ça donne? Mais non seulement ce don du parlant d'autres langues, le texte dit, ils ont prophétisé, ils ont parlé au nom de Dieu. Il y a toute une série qu'on va regarder ensemble de dons spirituels, de dons, de charismes, de dons de capacités surnaturelles impossibles à l'être humain que Dieu désire te donner aujourd'hui. Et nous aspirons ensemble à tous les dons. L'Église ne peut pas être l'Église qui va toucher la province de Québec avec des méthodes humaines, avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Nous avons besoin d'être l'Église qui est surnaturellement rendue capable par le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Alors, le Saint-Esprit descendit sur chacun d'eux. Je suis tellement touché et ému de voir qu'à l'Église d'Éphèse, dans la ville d'Éphèse à ce moment-là, il y avait des milliers et milliers de croyants. Puis un petit groupe de 12 qui apparaît. Et les apôtres s'arrêtent, l'apôtre s'arrête. Et Paul voit ce petit groupe de personnes, cette douzaine de personnes. Pourquoi, à ce moment-là, il y avait plusieurs milliers de croyants à Éphèse. Pourquoi s'arrêter à ces 12? Parce que c'est le désir et l'absolue conviction de Dieu que pas une seule d'entre vous ne soit laissé hors ou avec moins que toute la plénitude de ce que Dieu avait pour vous. Il y a des milliers de personnes à Éphèse qui connaissent Jésus-Christ. Mais lorsque ces 12 arrivent, Dieu a un plan pour chacun d'entre eux. Il y a une mesure de son esprit pour chacun d'entre eux qu'ils n'ont pas eu encore. Il y a une mesure des dons spirituels. Il y a une mesure avec de communion avec Dieu qui va bouleverser leur vie. Et notre Dieu a cette capacité. Il n'oublie pas les milliers d'autres dans la parabole du berger qui court après la brebis, qui va chercher la brebis. Il n'oublie pas les milliers d'autres. Mais Dieu a cette capacité de se concentrer sur toi ce matin. Il y a 500 millions de personnes sur la terre qui ne sont pas de cotisants. Mais Dieu a cette capacité de se concentrer sur toi et de dire, mon fils, ma fille, entends-tu ma voix? J'ai plus de moi à te donner. J'ai plus de mes dons à te donner. Laisse-moi agir en toi. Sois reconnaissant pour ce que tu as eu. Sois rempli d'action de grâce pour ce que tu as eu. Mais ne te contente pas de ce que tu as eu et empare-toi de ce que moi j'ai pour toi. Les dons personnels et progressifs. Et des manifestations du Saint-Esprit qui fait, nous permettront. Jamais les dons de l'Esprit ne sont dans un but ultime qu'on reste entre nous à se faire du bien. Non, les dons de l'Esprit, cette plénitude du Saint-Esprit, cette accentuation, approfondissement, élargissement, plus de son Esprit, est toujours dans un but de nous purifier, nous transformer, nous délivrer, nous changer, nous libérer, afin que là où nous sommes, dans nos milieux, nous puissions nous tenir et être des témoins puissants de lui. Ça, c'est la but ultime de Dieu. Plusieurs témoignages de tout cela qui entrent ici à Nouvelle-Vie. Je suis tellement béni par tous ceux d'entre vous qui prenez le temps de m'écrire. Je prie que tout le monde continue. Il y a quelque chose qui se passe de merveilleux dans votre vie. Prenez 2 minutes pour nous l'envoyer par courriel. Ça nous bénit tellement. Puis j'ai reçu plusieurs témoignages, comme à chaque semaine, la dernière semaine. Mais j'ai deux témoignages que je voudrais partager ce matin, que j'appellerais le témoignage des deux Samuel. Parce que plusieurs personnes qui ont envoyé des témoignages, mais il y a eu deux Samuel qui ont écrit, ils ne se connaissent pas, avec des vies diamétralement opposées. Et je crois qu'ils symbolisent très bien comment des gens de n'importe quel arrière-plan et différents arrière-plans arrivent ici et ont besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour être libérés, transformés. Un des Samuel est Samuel Richard, né dans une famille chrétienne. Ses parents sont ici ce matin, grandi dans l'Église, grandi dans le groupe de jeunesse et d'année en année, né à l'Église. Mais il a dû naître de l'Esprit, il a dû être baptisé, il a dû connaître Dieu, naître avec Dieu. Mais quelle joie de voir toute une jeunesse qui grandit, qui se tient pour Dieu. Deux lettres que je voudrais vous lire de lui. Le 15 décembre, Samuel Richard m'avait écrit, puis avait dit « Bonjour, Pasteur Claude, j'ai reçu votre carte de Noël, et mes parents aussi. Je vous souhaite également un joyeux temps des fêtes, ainsi qu'à votre épouse, toute la famille. » Au début de décembre, il me raconte ce témoignage. « Je présentais un projet à ma classe, à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui consistait à faire une boîte de denrées pour Action Nouvelle Vie. J'ai présenté à la classe le projet et le vidéo promotionnel d'Action Nouvelle Vie. Mes collègues de classe ainsi que mon enseignante ont suggéré que le projet soit présenté à l'école entière. Après avoir convaincu le service aux étudiants, l'association étudiante, le syndicat des fonctionnaires, qui normalement puis un autre organisme, quelques élèves et moi, on a préparé des affiches, des flyers distribués à l'école entière pour le projet en plein cœur de la fin de la session. L'engouement pour les paniers de Noël était si fort, tous les étudiants sont mis à amener du stock, que l'association étudiante était prête à faire le don de plusieurs caisses de bière. Samuel est très perspicace. Il a écrit « C'est alors que nous avons eu à réexpliquer la mission des paniers de Noël de l'Action Nouvelle Vie. C'est donc avec joie et reconnaissance devant les possibilités de Dieu que demain j'irai avec quelques collègues de classe remettre les 10 boîtes, des immenses boîtes, pleines à craquer de denrées à Action Nouvelle Vie. » Ça, c'est une lettre du 15 décembre. J'ai reçu une lettre de lui il y a quelques semaines, au mois de juin, le 25 juin. « Bonjour, Pasteur Claude, j'ai apprécié votre message ce dimanche. Vous avez parlé du fait qu'il ne faut pas se cacher derrière l'institution pour s'afficher comme chrétien, mais il faut le vivre de façon à représenter et refléter Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous. Vous vous rappelez peut-être de cet hiver, quand j'ai organisé une collecte de nourriture pour Action Nouvelle Vie. Pour donner suite à cela, je suis certain que vous serez heureux d'apprendre que la responsable des affaires étudiantes a remis ma candidature pour recevoir le prix du lieutenant-gouverneur du Québec et que je suis allé chercher une photo qui va apparaître de lui à l'écran avec sa famille, avec la lieutenant-gouverneur, que je suis allé cherché au Parlement de Québec au début du mois de juin. Ce prix est remis à un élève de chaque institution scolaire pour les résultats scolaires et l'engagement communautaire. Je vous envoie une photo de mes parents et moi en compagnie de Lise Thibault. Si vous êtes assis dans cette région-là, puis il y a une femme qui brille particulièrement en ce moment, c'est Monique, sa mère, qui est là et elle illumine toute la région de ce coin-là en ce moment. Ce n'est pas avec prétention que je vous fais part de ceci. Je me suis dit que c'est toujours un encouragement pour un pasteur de voir sa congrégation créer un impact et être reconnue même dans son milieu séculier. Je vous souhaite à vous et à votre famille un super bel été. Merci encore une fois pour tout le travail que vous et votre équipe faites dimanche après dimanche. Je veux juste rendre grâce au Seigneur pour le premier Samuel, un jeune homme qui a grandi dans l'Église, et je le dis avec un cœur qui est rempli d'espoir pour tous nos fils et nos filles. Mais alors que nous sommes dans une époque, avec le cœur brisé, je vous dis, il y a beaucoup de garçons et de filles qui ont grandi dans l'Église, qui s'éloignent, s'éteignent, ont une certaine connaissance de Dieu pour par la suite être attirés par les choses du monde. Mais je rends grâce au Seigneur que le Saint-Esprit, en 2006, est capable non seulement de garder nos jeunes, de protéger nos jeunes, mais de leur donner le courage de se lever et de parler et de témoigner et de recevoir ce que Dieu a pour eux. Vous devriez applaudir tous les parents qui sont ici. Le deuxième Samuel est ici ce matin. Il me fait sourire. Je connais bien son témoignage. Son témoignage d'un jeune homme qui était complètement arrière-plan différent. Toxicomane, captif, toutes sortes d'horreurs qu'il a vécues dans sa vie. Et j'ai suivi à travers les mois son témoignage. J'ai vu comment Dieu, de manière miraculeuse, l'a libéré. Et il est avec nous ce matin. Je pense qu'il vient à la deuxième réunion. Et il s'est marié hier. Et il est avec nous ce matin. Puis il m'a écrit ceci. Il s'appelle Samuel aussi. C'est le deuxième Samuel. Cher pasteur, nous allons être à l'église en voyage de noces, mon épouse et moi. Et je voulais vous demander, il y en a qui veulent aller à Paris, Venise, il y en a qui viennent à l'église Nouvelle-Vie. C'est ça la place des voyages de noces. Nous allons être à l'église en voyage de noces, mon épouse et moi. Je voulais vous demander si je peux venir vous présenter ma chérie dimanche le 9 juillet. On se marie le 8 à Québec, on s'en va à Nouvelle-Vie le 9 et on part en voyage de noces le 10. Nouvelle-Vie, c'est l'endroit où Dieu nous a sauvé la vie. Vous connaissez mon témoignage, mais je voulais vous dire qu'on est plus fort avec Dieu que jamais. En 2004, on vivait ensemble, on était tous les deux sur la coke et le crack. Moi, j'avais fait 4 programmes entre l'âge de 16 ans et 23 ans, mais rien ne marchait. J'étais toujours pire. Stéphanie, elle, celle qui est son épouse maintenant, elle avait fait 2 tentatives de suicide. C'est sa mère qui nous parlait de Dieu, de Nouvelle-Vie et de vous. Elle a prié pour nous pendant 5 ans. En 2004, on est allé à l'église et dans votre message, vous avez raconté votre témoignage. Et à la fin, vous avez prié pour moi et Stéphanie pour qu'on arrête de se geler et de se détruire. Comme vous le savez, notre délivrance, c'est comme un miracle. Ça fait 20 mois qu'on est sobre. On a arrêté de boire, de se geler et de fumer. On est retourné à Québec et on a trouvé notre église. Notre église est comme une fille de l'église Nouvelle-Vie. Et notre pasteur dit qu'on va être la Nouvelle-Vie de Québec. Il parle tout le temps de Nouvelle-Vie. Il est comme un fils de Nouvelle-Vie. On se marie parce qu'on veut obéir au Seigneur et parce qu'on s'aime et qu'on veut être une vraie famille chrétienne. Non, nous, sans Dieu, on serait morts. Les gens à notre église ne comprennent pas, les gens à notre travail, pardon, ne comprennent pas pourquoi on veut aller dans une église à Longueuil pour commencer notre vie mariée. Mais nous, on veut dire merci à Dieu, puis on veut prendre une photo avec vous. On veut dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée et pour notre avenir avec les enfants dans l'amour, ce que nous n'aurions jamais pu avoir sans l'intervention de Dieu. Les deux Samuel disent à qui que ce soit ici, où que tu sois, quel que soit ce que tu as vécu, il y a une Pentecôte et une mesure du Saint-Esprit pour toi. Est-ce qu'on peut l'applaudir ensemble? Afin de poursuivre les œuvres de Christ. La personne, la puissance, la plénitude du Saint-Esprit, afin que chaque personne puisse expérimenter une Pentecôte personnelle et progressive. Je termine avec ceci. La personne, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit, afin que les plans et possibilités de Dieu s'accomplissent en vous. Afin que les plans et possibilités de Dieu s'accomplissent dans chacun d'entre vous. Et je vais terminer ce message avec le témoignage de l'apôtre Pierre. Les Actes des apôtres nous disent... Dans Actes 2, 14, « Alors Pierre se leva, debout avec les 11, au milieu de la multitude venue de toutes les nations sous le ciel, éleva la voix et s'exprima avec ces mots, « Vous tous, écoutez mes paroles. » Si nous sommes ici aujourd'hui, et s'il y a des centaines de millions, près d'un milliard de chrétiens sur la terre, tout a commencé il y a 2000 ans, dans une salle de prière où les disciples ont prié, et alors que le Saint-Esprit est survenu sur eux, descendu sur eux. Les flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues, se mirent à louer, à adorer Dieu. L'Esprit de Dieu, littéralement, les pousse à la rue. Ils se retrouvent dans la rue alors que des juifs religieux sont en pèlerinage par milliers autour d'eux. Alors qu'ils se retrouvent à la rue, remplis de l'Esprit, l'apôtre Paul se lève et avec la puissance du Saint-Esprit sur lui, se met à proclamer Jésus-Christ au milieu d'une foule hostile. Des milliers se convertissent ce jour-là et l'Église est née. Je posais la question ici, lorsque vous voyez un homme comme Pierre, j'ai dit Paul, c'est l'apôtre Pierre bien sûr, lorsque vous voyez un homme comme Pierre debout, en train d'accomplir les possibilités de Dieu en lui, d'accomplir sa destinée, je pose une simple question. Combien d'entre vous préféreraient être Pierre qu'être Judas? Combien diraient Amen? Connaissons par l'histoire Pierre comme une figure héroïque qui, par la puissance de Dieu, a accompli les possibilités de Dieu en lui. Et Judas, une figure tragique de quelqu'un qui représente tout ce que nous ne voulons pas. L'échec, la chute, l'endurcissement, l'aveuglement, la condamnation, le tourment, jusqu'à sa destruction. Et pourtant, je voudrais vous proposer que ces deux personnages bibliques qui semblent si diamétralement opposés ont énormément en commun. Lorsque vous lisez les Écritures, vous réalisez, lorsque vous lisez les Évangiles, vous pouvez faire l'étude à la maison, vous allez découvrir beaucoup de choses à propos de Pierre et de Judas. vous allez découvrir que les deux ont répondu à l'appel de Christ, que les deux l'ont suivi et ont été enseignés par lui, que les deux apprennent de lui dans les évangiles et marchent avec lui, que les deux sont envoyés par lui pour le servir lorsque l'appel a retenti, Judas était là, que les deux sont utilisés avec puissance. Les textes nous disent qu'ils sont revenus en disant, « Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons proclamé ton évangile. » Et tous les disciples étaient là. Les deux sont tentés et influencés par le mal et les ténèbres. La Bible nous dit que dans les évangiles, que Satan est venu et a entré en Judas, que Satan a commencé à influencer Judas. Mais la Bible nous dit aussi qu'à un moment où Satan influençait à ce point l'apôtre Pierre, que Jésus a dit « Arrière de moi, Satan! » Les deux succombent, chutent, trahissent et connaissent un échec terrible. L'apôtre Pierre se met à blasphémer pour prouver qu'il ne connaît pas le Christ. Alors que leurs yeux se croisent et que le coq chante, se met à pleurer amèrement. À chaque fois qu'il y pense, nous dit les Écritures, il est rempli d'amertume pour l'échec qu'il a connu. Les deux retournent à ce qu'ils étaient. Judas retourne au Sanhédrin avec ses pièces d'or et Pierre retourne, lui, à ses bateaux. Les deux ont tellement de choses en commun. Mais Judas trouve la mort dans le champ du potier, mais Pierre trouve le miraculeux sur le chemin de la Pentecôte. J'aimerais vous proposer que la différence entre les deux, c'est comment ils ont répondu à l'appel du Saint-Esprit, à la plénitude de l'Esprit. Que chacun d'entre nous avons de ces échecs, de ces tentations, de ces chacun d'entre nous avons ces plans diaboliques de l'ennemi sur nos vies. Ces plans machiavéliques, diaboliques, sataniques de l'ennemi sur chacune de nos vies. Jésus a regardé à Pierre, il a dit, Pierre ou Simon, Simon, Luc 22, 31, Satan a désiré te faucher comme les blés ou te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et quand tu reviendras, tu affermiras tes frères. Il y avait ces deux possibilités au-dessus de la tête de Judas, ces deux possibilités au-dessus de la tête de Pierre, comme au-dessus de votre tête et de votre vie. Possibilité satanique, possibilité du sauveur, possibilité de faillite, mais pas possibilité de foi et d'être fier de ce que j'accomplis en Dieu. Possibilité de faire le mal, mais possibilité de foi et du miraculeux. Possibilité d'être un échec ou d'être un exemple. Possibilité d'être une perte terrible ou une personnalité. Possibilité de m'emparer de son plan et d'avoir un témoignage devant Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle à chaque être humain dans ce lieu ce matin. Chaque croyant, il dit, « Je connais des plans que j'ai formés sur toi, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous serez libérés. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aimerais vous proposer que la différence entre Pierre et Judas, c'est que Judas a écouté la voix du menteur, a laissé les tourments et les mensonges de l'ennemi l'amener jusqu'au champ du potier. Finalement, le champ du potier qui représente la condamnation, représente le tourment, les mensonges, le blâme peut-être de d'autres, représente Judas qui cherche une validation auprès de ceux qui ne connaissent même pas Dieu, représente des milliers de croyants qui s'éloignent peu à peu de l'Église et s'en vont pas après pas vers le champ du potier, l'endroit où ils se condamnent, l'endroit où ils accusent, l'endroit où ils blâment, l'endroit où ils s'autodétruisent, l'endroit où le tourment les fait faire des choses terribles, l'endroit où ils mettront fin au plan de Dieu dans leur vie. Alors que Pierre qui a chuté, Pierre qui a trahi, Pierre qui a été influencé par l'ennemi, Pierre qui pense que tout est fini, lui, peut-être en titubant, peut-être avec une foi qui est chevrotante, avec une petite flamme qui est presque éteinte, mais qui est là, ne prend pas le chemin du potier. Il prend le chemin de la Pentecôte. Il s'en va dans la chambre haute, secoué, faible, tremblant, aucune confiance en lui-même. Aucune illusion sur sa capacité humaine de faire quoi que ce soit. Et là, on le retrouve, retournant à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Et c'était Pierre. Il est là, et tous les autres sont nommés. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Avec Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. La différence pour vous va être aujourd'hui, dans les mois et années à venir, quelle va être votre recherche, votre communion et le sérieux que vous allez accorder à rechercher la présence de Dieu.
J'ai des plans et des projets formés sur toi, dit le Seigneur, qui s'accompliront si tu me cherches de tout ton cœur. »
Voici, ils allèrent au lieu où ils se tenaient d'ordinaire pour chercher l'onction de Dieu. C'est votre décision ce matin. Quel va être votre style de vie? Le champ du potier ou le chemin de la Pentecôte? L'ordinaire ou l'onction? L'endurcissement ou l'élévation? L'assoupissement ou l'accomplissement? La pauvreté ou les possibilités? Les chutes horribles? Chutes horribles! Il y a un temps pour se réjouir, puis il y a un temps pour pleurer. Et j'ai pleuré dans la dernière année, dans les dernières années, par les chutes horribles de personnes qui avaient de grands appels de Dieu sur leur vie et la douleur qu'ils causent autour d'eux. Et sans condamnation au jugement de eux, je m'en vais dans mon lieu secret avec Dieu et je dis, Dieu, que celui qui se tienne prenne garde de peur qu'il ne tombe. Je ne suis pas d'une autre essence que ces hommes et ces femmes-là. Je n'ai pas de force en moi-même supérieure à eux. Si je suis gardé droit devant toi jusqu'à ce jour, c'est à cause de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Alors, mon Dieu, par la grâce de Dieu, je ne serai pas une autre histoire. Je ne serai pas une chute horrible. Mon Dieu, par ta grâce, je ne serai pas une autre chute horrible, un autre témoignage de honte. Par ta grâce, Seigneur, je veux trouver la chambre haute. Je veux trouver le lieu dans une réunion comme ce soir, dans un cœur nouvelle vie, à la maison lorsque la télé est mise de côté, le soir lorsque j'ouvre ma Bible, le matin peut-être pour toi. Je veux trouver ce lieu de communion avec Dieu où les possibilités peuvent s'accomplir en moi. Oui, Satan a désiré Claude, Joël, quel que soit ton nom, Marc, Melvin, Claude, Ginette, quel que soit votre nom, Jésus dit, Satan a désiré te cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi et j'ai une puissance pour toi afin que tu marches sur la puissance de l'ennemi et que tu te lèves le jour de ta Pentecôte pour accomplir ce que Dieu a pour toi. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Lorsqu'on est allé à Jérusalem récemment, on est allé dans la salle qu'ils appellent la chambre haute. Les théologiens, les historiens ont des grands débats depuis des siècles à savoir si c'est la vraie chambre haute ou est-ce qu'elle était un peu à côté ou là ou là. Ce qui est important, c'est qu'il y a un endroit où ils sont allés. Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais dans la chambre haute, il y a quelque chose qui était intéressant qui était là. Il y a des colonnes partout dans la chambre haute. Et dessus, sur toutes les colonnes, il y a des pélicans partout sur les colonnes. Alors, j'ai demandé à notre guide qui était là, qui est un pasteur juif messianique qui parle hébreu et tout ça. Lui nous a dit, c'est parce que le pélican, ils ont mis ça au fil des siècles, ça a été mis sur ces colonnes, parce que le pélican, c'est le seul animal qui nourrit ses enfants avec sa propre chair. Et lorsque j'étais là, lorsque tu vas en Israël, une des choses continuellement qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu différencies entre ce qui est vrai et ce qui est mythologie. Et j'avais un pasteur qui me dit ça. Mais j'ai Pasteur Mark à côté, qui est un homme rempli de foi, mais le roi de tous les sceptiques. Alors, il était debout à côté de moi. Alors, lui, il me dit ça, le pélican, c'est le seul animal qui mange sa propre chair. Puis là, il a vu ma tête de prédicateur commencer à tourner, il me voyait déjà le prêcher. Puis Pasteur Mark se penche vers moi, puis il dit, « You're gonna have to check that out, t'es mieux de vérifier, voir si c'est vrai. » Alors, je suis revenu, puis il y a des sites, croyez-le ou non, il y a des sites Internet complètement consacrés au pélican. C'est important. Et dans la section pélican, il est écrit mythologie. En Europe occidentale, le pélican était au Moyen Âge un symbole de piété pour l'Église chrétienne. On croyait qu'il perçait sa propre chair et nourrissait ses petits de son sang. D'autres histoires parlent du pélican comme ouvrant sa poitrine de son bec, son sang se déversant sur les oisillons, les ramène alors à la vie. Règle générale, le pélican symbolise, ça c'est le site Internet qui disait ça, selon la mythologie, le pélican symbolise le sacrifice de Christ qui versa lui aussi son sang d'une manière analogue. Ça, c'est la première page du site. J'ai dit, yes! C'est vrai, mon pouvoir le prêcher. Page suivante, tout ceci est entièrement faux. Mais j'ai trouvé quelque chose quand même. La réalité au-delà du mythe, c'est que les tout jeunes poussins sont alimentés avec un liquide, je ne veux pas être dégueulasse, mais sont alimentés avec un liquide régurgité, une sorte de soupe de poisson. Dès l'âge de 2 semaines, ils sont nourris par leur mère de poissons qui sont régurgités. En d'autres mots, le pélican est nourri par ce que la mère a déjà goûté. Et Jésus dit, c'est le même esprit qui m'a ressuscité d'entre les morts demeure en vous, il vous donnera la vie. Et Jésus dit, j'ai goûté à tout ce que tu traverses. Avant de te le donner, j'ai goûté. Il a été tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés. J'ai goûté aux larmes. J'ai goûté à l'abandon. J'ai goûté au désespoir. J'ai goûté aux attaques et aux mensonges si sournois de Satan. J'ai goûté au désir de tout lâcher, de tout abandonner. Moi aussi, j'ai dit, Père, s'il est possible, éloigne la coupe. J'ai goûté à tout ce que l'enfer pouvait lancer contre toi. Je lui ai goûté, mais j'ai aussi goûté à cette puissance de l'Esprit. Et c'est comme si Jésus disait littéralement, j'ai goûté à tout ce que je te donne, tout ce que je te demande de faire. C'est ce qui te vient de moi qui te permettra de grandir, de vivre et de prendre ton envol. La même nourriture et puissance de l'Esprit qui m'a ressuscité, je te la donne. Et si tu la désires et si tu la recherches, vraiment, tu vivras. Le même Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts demeure en vous. It will quicken you et te donnera la vie. Les possibilités que Dieu a pour toi. Et Pierre se leva le jour de la Pentecôte, rempli de l'Esprit de possibilités, commença à proclamer, commença à accomplir ce que Dieu avait pour lui. Et par la grâce de Dieu, on va mourir en essayant. Par la grâce de Dieu, je veux vous inviter. Nous allons prier, jeûner, combattre pour vous. Et par la grâce de Dieu, chaque personne dans ce lieu, ceux qui vont entendre ce message, et tous ceux qui vont se joindre à nous, allons vivre cet esprit qui nous permet de poursuivre les œuvres de Christ. Allons vivre cette Pentecôte personnelle et progressive. Et allons vivre ensemble cette puissance qui, par la grâce de Dieu, va me tenir loin à jamais du champ du potier où Judas et tous les autres ont succombé. Parce que je vais être celui qui prend la décision, celle qui prend la décision d'être trouvé dans la chambre haute, dans la chambre des possibilités, où Dieu me donne de ce qu'il a goûté lui-même et me permet de prendre mon envol et que ceux qui le désirent disent un dernier grand amen et applaudissent les possibilités que Dieu a pour vous. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. J'aimerais que vous tendiez vos mains vers Dieu pendant quelques minutes. Allez-y, tendez les mains vers le Seigneur. Je prie que vous soyez là ce soir. Je prie que vous veniez ce soir voir au roc rafraîchissant. Que vous veniez dans la présence de Dieu ce soir. Je prie que vous y soyez pour venir boire à la présence du Seigneur, prendre le repas du Seigneur, aller dans la louange et l'adoration, entendre la prédication, répondre à la prédication. Venez dans votre chambre haute. Mais dès ce matin, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Dieu et dire, « Me voici, Seigneur. Remplis-moi de la personne. Remplis-moi de la puissance et de la plénitude du Saint-Esprit.
Viens me transformer. Viens tout diriger, prends la place qui te revient.
Ensemble.
Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient.
Viens me transformer ensemble.
Oh, viens me transformer, viens nous diriger, prends la place qui te revient. Oh, viens me transformer, viens nous diriger, prends la place qui te revient. Wow, wow.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.